clarifier ce qu'on fait ou le reclarifier d'une autre manière aide à être en relation avec la pratique méditative. Et je me suis souvenu, toutes les personnes qui ont fait les études de psychologie s'en souviennent peut-être, de la pyramide de Maslow. Et je ne me rappelle pas du tout exactement du détail, mais c'est donc une pyramide où en bas, il y a les besoins de base, et c'est la base. Et quand on a répondu à ses besoins, quand ils sont satisfaits, on peut passer aux étages supérieurs. Évidemment, tout en bas, il y a le besoin de sécurité. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance à un groupe social. Et puis tout en haut, il y a, ils appellent ça quoi, la réalisation de soi ou l'actualisation de soi. Donc, il faut commencer par avoir un toit, pouvoir manger, être en sécurité, être en bonne santé. Et sur cette base, on peut ajouter d'autres choses. Mais on a besoin d'avoir une base pour pouvoir monter ensuite dans des besoins. Moins vitaux, moins basiques. Alors, sur le plan méditatif, au niveau des compétences qu'on développe, il y a une logique un peu similaire, c'est-à-dire qu'il y a une compétence vraiment basique sur laquelle on peut en développer une seconde, sur laquelle on peut en développer une troisième, mais quand on a perdu de vue la compétence de base, on ne peut pas sauter les étapes, en tout cas c'est difficile de le faire. Et surtout dans les moments de stress, c'est quelque chose qu'on réalise. Vous allez sûrement le comprendre quand je vous aurai présenté la première compétence. Donc, la pyramide des compétences méditatives. La première compétence, c'est avoir conscience de son corps. Et j'aimerais citer Kabir et son poème que j'aime bien. Je dis à cette créature en moi, qui veut quelque chose. Quelle est cette rivière que tu veux traverser? Il n'y a pas de voyageur, pas de route. Vois-tu quelqu'un bouger sur cette rive? Il n'y a pas de rivière, pas de bateau, pas de batelier. Pas de corde d'amarrage, personne pour l'attirer. Il n'y a pas de sol, pas de ciel, pas de temps, pas de rive. Il n'y a pas de corps, pas d'esprit. Penses-tu vraiment qu'il existe un endroit qui rendra ton âme moins affamée? Dans cette grande absence, tu ne trouveras rien. Et c'est là que le conseil de Kabir résonne pour moi. Sois fort, alors, et entre dans ton propre corps. Là, tu trouveras un sol ferme pour tes pieds. Pense-y soigneusement. Ne t'en va nulle part ailleurs. Kabir dit ceci. Débarrasse-toi des pensées sur les choses imaginaires et tiens-toi fermement dans ce que tu es. Pour Kabir, le corps est le sol ferme pour nos pieds. Et avant même de se centrer sur la respiration, avant de faire quoi que ce soit d'autre, la première chose qu'on apprend à faire et qu'on doit absolument apprendre à faire, c'est prendre conscience du corps. Le corps a cet avantage. Pour la personne qui veut vivre en pleine conscience, qu'il est toujours dans l'instant présent. Le corps est dans l'instant présent. Le corps est aussi toujours un reflet exact, fidèle de ce qu'on est en train de vivre. Il n'y a pas de déni au niveau du corps. C'est toujours psychologique. Donc, quand on a conscience du corps, on a conscience de ce qu'on est vraiment en train de vivre et on a conscience de ce qu'on est vraiment en train de vivre dans l'instant présent. Donc, c'est effectivement un sol ferme. S'y ajoute que le corps ne rumine pas. Un corps, ça ne rumine pas. C'est stable, c'est relativement stable. L'expérience peut être confortable, inconfortable, mais un corps ne va pas ruminer. À la différence de l'esprit. Et il y a un mot de la philosophie bouddhiste qui est évidemment un mot de trois syllabes dans la philosophie bouddhiste et qui se traduit par 24 en français, c'est papancha. Et papancha, en pali, ça se traduit par tendance à la prolifération. Et dans la philosophie bouddhiste, il y a ce mot papancha qui est, tel que je l'ai compris, une caractéristique de l'esprit. Donc l'esprit a une tendance à la prolifération des idées et des concepts. Donc si on se centre avec son attention sur ce qui se passe dans l'esprit, il y aura prolifération. C'est ce que fait l'esprit. Le corps ne prolifère pas. Il y a une sensation, elle est peut-être désagréable, elle reste désagréable, elle l'est peut-être un peu moins, elle l'est peut-être un peu plus, elle disparaît. Alors qu'avec l'esprit, une idée peut donner naissance à 10 autres idées et nous emmener de plus en plus loin de l'idée de base, très rapidement. La rumination, finalement, c'est l'exemple type de la papanchisation, de la tendance à la prolifération de notre esprit. Donc, quand on apprend à avoir conscience du corps, et plus on a conscience du corps, plus on est proche de soi-même et de ce qu'on est vraiment en train de vivre. Et en situation de stress, la conscience du corps est la meilleure garantie pour sortir du pilotage automatique, pour sortir de la rumination, de la catastrophisation ou de l'esprit qui s'emballe. Simplement avoir conscience du corps. Il ne sera pas confortable, mais il sera dans l'instant présent et il sera un reflet réel de ce qu'on est en train de vivre. Et il ne proliférera pas, il ne ruminera pas. Et évidemment, plus on affine et plus on a souvent ce rapport au corps facile, évident, hein, plus on vit au plus près de notre expérience. Et c'est vrai aussi pour la nourriture. C'est exactement ce qu'on observe aussi dans notre rapport à la nourriture. Alors ça, c'est la base de la pyramide des compétences méditatives. La deuxième compétence, c'est stabiliser l'attention sur un objet. Et j'aimerais citer le très grand William James, père fondateur de toute une école de psychologie, et un type extraordinairement intelligent et avant-gardiste, qui pensait d'ailleurs que la pleine conscience allait cartonner en 1890. Voilà. Il disait, la capacité de ramener volontairement à son objet une attention qui est distraite, et ce, de manière répétée, est la racine même du discernement, du caractère et de la volonté. Une éducation qui pourrait améliorer cette capacité serait l'éducation par excellence. Mais il est plus facile de définir cet idéal que de donner des instructions pratiques pour y parvenir. Pas mal. Et c'est vrai que l'attention, la stabilité de l'attention, c'est la base de tout, c'est la base de l'apprentissage, tout simplement. C'est aussi un outil de travail fondamental, quelle que soit l'activité qu'on choisisse d'accomplir. Sur le plan méditatif, en restant avec la respiration et en revenant à la respiration, respiration après respiration, on permet à notre esprit de se stabiliser, de se tranquilliser de plus en plus. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on peut faire quand on est en relation avec le corps, c'est changer la qualité de notre attention pour qu'elle soit plus stable et pour que notre esprit soit plus tranquille. Alors, en plus de l'impact sur notre capacité à nous concentrer, qui aurait beaucoup plu à William James, l'attention est un muscle qu'on peut développer et on peut l'entraîner à être de plus en plus stable, de plus en plus longtemps au fil du temps. Et si vous n'avez pas l'impression que c'est le cas dans votre pratique méditative, je suis à peu près certain que vous vous trompez. Le problème étant qu'on n'est pas un très bon juge de ça et qu'on a tendance à aiguiser aussi notre capacité à percevoir le nombre de fois où on a été distrait et que donc l'ignorance bienheureuse qu'on a au début, de ne même pas réaliser qu'on avait l'esprit qui pensait à autre chose, elle disparaît avec la professionnalisation du méditant. Donc il a l'impression d'être toujours incompétent parce qu'il est de plus en plus capable de discerner les moments aussi où il est distrait. C'est ma théorie. Et cette compétence-là, ça nous permet de créer du calme et de la lucidité quand on en a besoin, à tout moment, même au milieu d'une catastrophe absolue. Une respiration après l'autre. Vous avez en tout cas 7 respirations de stabilité et de tranquillité. Après, il se passe peut-être de nouveau quelque chose qui vous submerge, mais après, vous avez de nouveau cette respiration de stabilité et de tranquillité. Et petit à petit, de respiration en respiration, on construit de plus en plus de lucidité, de plus en plus de tranquillité. Et évidemment, quand l'esprit est avec la respiration, il l'est moins ou plus avec la rumination. On ne peut pas faire complètement deux choses à la fois, c'est un mythe. Ça a d'ailleurs été prouvé, il n'y a pas de multitâche. Donc à partir du moment où vous commencez à observer la respiration, si vous étiez en pleine rumination, vous serez moins en rumination, vous le serez occasionnellement, parce qu'il y a d'autres moments où vous serez avec la respiration. Et plus le temps sera long, plus la durée des moments de stabilité sera importante aussi dans l'espace de votre méditation. Maintenant, il y a autre chose, parce que cette concentration, il y a aussi des moments, quand elle est vraiment bien établie, hein, où on a le sentiment que ça se fait sans effort. Une attention, par exemple, à la respiration, vous avez l'impression que le corps respire et que vous êtes avec chaque respiration et que ça ne vous demande pas d'effort, de concentration. Et dans ces moments-là, on fait aussi la découverte qu'il y a un plaisir. Le plaisir d'être en pleine conscience, le plaisir d'être concentré, que c'est agréable, c'est pas neutre, c'est pas juste être lucide, être stable, c'est agréable d'être dans cet état-là, que c'est une espèce de plaisir, alors pas qui ne dépend pas des sens, qui a vraiment un plaisir cognitif, un plaisir mental si on veut, mais c'est un plaisir. Et en tout cas, il y a des moments où ça l'est, le simple fait d'être concentré, d'avoir l'attention stable. Et c'est une source de plaisir intéressante parce qu'elle est complètement indépendante des circonstances. Et on a besoin de sources de satisfaction et de plaisir indépendantes des circonstances parce qu'on ne les maîtrise pas et parfois elles nous sont très désagréables. Donc la stabilité de l'attention est un tout petit plaisir et il est disponible en toutes circonstances. Et quand on a cultivé cette capacité-là de stabiliser l'attention, il y a le troisième étage de la pyramide, observer son expérience en pleine conscience. C'est ce qu'on appelle l'attention ouverte, ce qu'on fait dans les moments de stress quand on s'est stabilisé sur la respiration. Ça veut dire cultiver une partie de nous-mêmes qui peut observer notre expérience et qui est indépendante de notre expérience tout en faisant partie, hein, quelque chose d'un peu particulier. Alors, moi, ça m'a toujours beaucoup aidé, la façon dont la philosophie bouddhiste qualifie cette pleine conscience. Elle lui donne, elle ne le fait pas exactement comme ça, moi je le fais comme ça, il y a trois caractéristiques de l'existence qui sont à prendre en considération pour la philosophie bouddhiste. Et pour moi, ça correspond exactement à ce qui nous permet de comprendre comment on observe ce qui se passe en nous en pleine conscience. C'est les trois éléments à avoir à l'esprit quand on s'assied pour méditer et qu'on veut avoir une période d'attention ouverte. Ou dans la vie de tous les jours, quand on veut vivre quelque chose en pleine conscience, surtout si c'est quelque chose de difficile. Le premier, c'est la désidentification, que les bouddhistes appellent le non-soi ou anatta, c'est-à-dire que ce qui se passe en nous n'est pas nous, que c'est quelque chose qui nous arrive, que c'est un visiteur de notre auberge, mais que ça ne nous constitue pas, ce n'est pas une partie de notre personne. Et il y a une anecdote dans la philosophie bouddhiste qui présente assez clairement cette idée. Je l'ai déjà raconté 46 fois, mais vous êtes venu plusieurs fois, donc ma foi, je radote un peu. Un ermite qui s'appelait Bahiya et qui était un forcené de l'ascèse et du travail méditatif, donc qui avait une excellente capacité à concentrer son esprit. Le deuxième étage. La stabilité de l'esprit, il était complètement acquis chez lui. Mais il était frustré parce qu'il n'arrivait pas à atteindre ce fameux éveil. Et donc, Il a appris qu'un enseignant réputé venait dans la région et il a demandé à le rencontrer, mais ce n'était pas possible. Et il a demandé alors où il était. Ben, il est en train de faire l'aumône avec son bol. Donc, l'ermite Bahia est allé dans la direction qu'on lui montrait et il a rencontré Siddhartha Gautama, mieux connu sous le nom de scène du Bouddha, en train, en effet, d'aller chercher de la nourriture avec son bol. Et il lui a demandé de l'enseigner parce qu'il avait peur de mourir avant d'avoir atteint l'éveil. Et je crois qu'il lui a peut-être dit non plusieurs fois, pour finir, bon. Il a pris en considération le fait que c'était quelqu'un qui avait déjà atteint un niveau important de développement de son attention. Et il lui a donné un seul conseil, pratique de la manière suivante. Dans ce qui est vu, il n'y a que ce qui est vu. Dans ce qui est senti, il n'y a que ce qui est senti. Dans ce qui est pensé, il n'y a que ce qui est pensé, etc. Est-ce... Oui. Et alors? Et évidemment, ce qu'il voulait dire par là, c'est que ce qui lui manquait probablement, c'est cette capacité à reconnaître une sensation comme étant simplement une sensation et pas une partie de son identité. Une pensée comme étant simplement une pensée produite par son esprit et pas une partie de son identité. Et donc cette capacité à se désidentifier de son expérience, tout en étant bien là pour la vivre, mais d'observer toutes les manifestations de nos cinq sens plus un comme simplement un phénomène qui apparaît dans le champ de notre attention et pas qui nous sommes. Et c'est très intéressant quand on observe les choses de cette manière-là, parce que ça a un côté libérateur de ne pas être défini par l'angoisse, par exemple, qu'on est en train de vivre, mais de l'observer comme « Ah, de l'angoisse, et cette angoisse a une certaine intensité, je la sens d'une certaine manière, elle va durer un certain temps. » Ça ouvre aussi une possibilité, on n'y pense pas forcément immédiatement, mais si vous... vous êtes capable d'observer ce qui se passe en vous comme n'étant pas vous, vous pouvez aussi avoir de la compassion ou de la bienveillance pour votre expérience. La personne qui observe peut avoir de la compassion pour la personne qui ressent, ou plutôt la partie de vous-même qui observe peut avoir de la compassion, de la tendresse, de la bienveillance pour la partie qui ressent. On peut avoir de la compassion pour son propre chagrin, on peut avoir de la compassion pour sa propre douleur. Et ça, c'est possible à partir du moment où on définit ce qu'on vit comme étant quelque chose qu'on peut observer et n'étant pas soi, soi-même. La deuxième caractéristique de ce qu'on observe en pleine conscience, c'est l'impermanence.
C'est là.
L'impermanence. Et vous vous souvenez de ce grand classique, ce roi qui voulait qu'on lui donne quelque chose qui le rendrait heureux quand il était triste et triste quand il était heureux, qui s'est fait graver sur une bague la phrase « ça aussi, ça va passer » à considérer dans ces moments de drame pour se rappeler que ça passerait et dans ces moments de légère manie pour se rappeler que les moments de bonheur et d'euphorie passeraient aussi. C'est une très jolie phrase et elle a une histoire très riche. Si vous allez sur Wikipédia et que vous regardez « This too shall pass hein, » en anglais, « ça aussi, ça va passer », c'est une phrase qui est apparue à peu près en même temps dans la culture perse, donc elle existe en farsi, en persan ancien, en arabe et en hébreu. Et voilà, ça c'est une sagesse qui a voyagé à l'époque entre les cultures et les religions. Ça aussi, ça va passer. Ça renvoie aussi à ce chiffre de la scientifique américaine Jill Bolte-Taylor que j'aime bien mentionner dans le cours, qui dit qu'une émotion pure dure 90 secondes et qu'ensuite, si on a l'impression qu'elle dure plus longtemps, c'est que quelque chose en nous la prolonge et la renforce. Et toutes nos expériences ont cette nature d'apparaître, puis de disparaître, ou en tout cas de vivre des modulations. Ça monte, ça descend. C'est pas constant, c'est pas stable. C'est vrai pour les pensées, les émotions, les sensations, tout ce qu'on vit. Et dans cette formation, vous allez vivre des moments de confort qui vont passer, des moments d'inconfort qui vont passer, des moments de concentration qui vont passer, de déconcentration qui vont passer, de somnolence et de lucidité, d'agitation et de calme, de rejet qui vont passer, d'acceptation qui vont passer aussi, de doute, de confiance, tout ça va apparaître et passer. Une envie furieuse de prendre votre voiture et de rentrer chez vous au milieu de la nuit qui va passer. Une envie de prendre une chambre à l'année, à chemin, de ne plus jamais quitter cet endroit qui va passer. Toutes les sensations, toutes les émotions, quand on les observe suffisamment longtemps, avec suffisamment de précision et de continuité et de soin dans notre attention, on réalise qu'elles passent, qu'elles changent, qu'elles évoluent et qu'elles disparaissent. Elles ont une nature changeante. Donc, on n'est pas obligé de les croire, on n'est pas obligé de leur obéir, on n'est pas obligé de leur résister. On peut les laisser passer. Ce sera peut-être particulièrement vrai quand on parlera demain ou après-demain des envies de manger quelque chose. Mais des envies de n'importe quoi. Là aussi, c'est possible de ne pas leur résister, ni leur obéir, mais de les observer passer. Elles passent. Le langage des émotions, c'est toujours, quelle que soit l'émotion, l'envie, c'est un bon exemple, mais c'est la même chose pour l'anxiété, c'est la même chose pour la colère, c'est toujours un langage très autoritaire qui cherche à nous convaincre que l'émotion est la chose la plus importante au monde et qu'il faut immédiatement qu'on lui résiste ou qu'on lui obéisse. Et non, c'est faux, ça va passer. Oui, ouais. C'est particulièrement marqué pour les émotions parce qu'elles nous crient vraiment. Résiste-moi ou obéis-moi. Crispe-toi autour de moi ou fais ce que je te demande de faire. Il y a une troisième option. Et ce qui est, je trouve, on ne le remarque pas forcément immédiatement, mais je trouve ça extraordinaire, c'est que parce que tout va passer, ça aussi, ça va passer. Paradoxalement, ça crée une grande impression de stabilité intérieure. Parce que finalement, l'observateur qui observe ce qui passe, lui, il est d'autant plus stable qu'il est en position d'observer que les choses changent. Donc si vous avez survécu à une vague d'anxiété, à une vague de colère, sans avoir rien fait d'autre que de l'observer, on se sent fort et en confiance et stable parce qu'on a réalisé que nous étions stables dans notre position d'observateur, alors que l'émotion, elle, ne faisait que passer. Et la troisième caractéristique de ce qu'on observe en pleine conscience, c'est la moins facile à vendre. Elle est très impopulaire. Dans la philosophie bouddhiste, on l'appelle dukkha. C'est traduit parfois par la souffrance ou la nature insatisfaisante de l'existence, ou si on est très cool, et 21e siècle, on dit le stress. Toutes les traductions se valent. Moi, j'aime beaucoup l'idée de vulnérabilité, en fait. Ça renvoie au fait qu'en étant être humain, on est vulnérable à quantité de choses désagréables, et qu'en fait, notre nature humaine implique de vivre des choses désagréables. Le concept de dukkha, le mot dukkha lui-même, le préfixe du, c'est comme le dis, de disharmonie ou de discorde, donc c'est quelque chose qui cloche. Il est assez clairement défini, et je trouve que la définition est finalement assez complète. Dukkha est la naissance, bon, là je ne me souviens pas, vieillir est dukkha, la maladie est dukkha, la mort est dukkha, le chagrin, les lamentations, la douleur, le désespoir sont dukkha. Et là, quelque chose qui permet de ratisser large ce qui avait été oublié par les termes précédents. L'association avec ce qu'on n'aime pas est dukkha. est naturellement la séparation de ce qu'on aime. Et donc avec ça, on a défini quelque chose qui couvre en effet une bonne partie de notre souffrance psychologique, mais ils ajoutent encore ne pas obtenir ce qu'on veut, et tout cas. Et là, je pense que c'est bon, on a tout. Donc, qu'est-ce que ça implique dans la manière dont on observe nos expériences? Parce que le non-soi, on peut très bien envisager ce que c'est. Ok, une émotion est simplement une émotion, une sensation est simplement une sensation, et l'impermanence, ben, ça va passer. Pour moi, ça revient à avoir conscience face à quelque chose de déplaisant, donc face à quelque chose qui relève de tout ce que je viens de mentionner. Alors oui, qu'il n'est pas qui nous sommes, oui, qu'il va passer, ou en tout cas que quelque chose en lui va changer, baisser en intensité, mais aussi qu'il est la marque de notre humanité, qu'il est quelque chose d'absolument inévitable, et qu'on peut s'épargner la part de rejet, de révolte, qui augmente l'intensité. De ce qu'on ressent, si cette caractéristique-là est présente à notre esprit. Elle n'est pas populaire parce que je crois qu'on vit quand même dans une société qui part du principe que la souffrance ne devrait pas exister, que c'est une aberration et que il faut traiter la souffrance pour qu'elle disparaisse. Mais c'est un concept assez récent et il n'a pas vraiment fait ses preuves. Oui, exactement, le droit au bonheur, c'est la Constitution américaine, on peut dater ça du 18e. Donc, dans l'histoire de l'humanité, c'est assez récent. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que ça marche. Je pense que la conception de la philosophie bouddhiste nous rend plus heureux, paradoxalement, parce qu'on est en mesure de profiter du bonheur davantage en sachant que est attaché à notre condition humaine, de la souffrance physique, psychologique, de l'association et de la désassociation qui vont nous faire mal. Et ça permet aussi, je trouve, de s'envisager soi-même, quand on souffre, comme faisant partie de la grande famille humaine des gens qui souffrent. On n'est pas cette personne qui a un problème, raison pour laquelle on souffre. On est cet être humain qui, comme tous les autres humains, est doté de cette étonnante capacité à souffrir qui fait qu'il va souffrir. Et c'est quelque chose qui nous lie aux autres, alors que la conviction qu'on doit, qu'on peut être heureux et épanoui en tout temps, nous sépare des autres et nous met presque en compétition avec eux. Je trouve qu'il y a quelque chose de psychologiquement assez sain dans cette idée. Et évidemment, cette capacité à observer ce qui nous arrive, comme n'étant pas qui nous sommes, comme allant passer, et comme étant le reflet inévitable de notre fragilité humaine, notre vulnérabilité humaine, quand c'est affiné, quand on le pratique beaucoup, à certains moments, ça offre aussi une sécurité extraordinaire, un bien-être complètement indépendant de ce qu'on est en train de vivre. Une bonne partie de notre souffrance apparaît au moment où on personnalise ce qui nous arrive, au moment où on dit c'est à moi que ça arrive. Et paf, à ce moment-là, on souffre. Quand vous observez quelqu'un qui souffre, vous avez peut-être un élan de compassion qui est la première chose qui vous vient. Quand c'est vous qui souffrez, il y a le c'est moi. Et pourquoi c'est moi? Et à partir du moment où ça devient quelque chose d'identitaire, c'est beaucoup plus douloureux psychologiquement. Quand c'est de la souffrance de ce moment qui se produit en moi, on l'envisage d'une façon différente, qui ouvre la porte à plus de compassion envers soi-même, plus d'attendrissement envers soi-même. C'est finalement une idée d'acceptation qui est derrière la mise en pratique de cette caractéristique-là. Et il y a une citation de Michael J. Fox que j'aime bien, qui est donc acteur américain que vous avez vu dans des mauvais films il y a une trentaine d'années, dans de bonnes séries plus récemment, qui est atteint de la Parkinson depuis longtemps, je crois depuis 20 ans peut-être. Il y a une idée qui m'est apparue il y a quelques années et que j'aime beaucoup. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation est inversement proportionnel à mes attentes. Mon bonheur est simplement proportionnel à mon acceptation et inversement proportionnel à mes attentes. C'est la clé pour moi. Si je peux accepter la vérité de « voilà ce que j'ai à vivre », ce n'est pas ce que j'attendais, mais c'est la réalité de mon expérience, alors et alors seulement, il me vient toute cette liberté de vivre d'autres choses. Particulièrement venant de lui, je trouve que c'est une magnifique citation. Ça, c'est le troisième étage de la pyramide. On est déjà très haut. Et le quatrième, je ne sais pas si c'est juste de le mettre au quatrième étage, parce que il pourrait être plus bas aussi. Mais il y a une certaine logique. C'est de cultiver les états qui nous font du bien. Donc, à partir du moment où on a pris une perspective différente sur ce qu'on vivait, où on a gagné en liberté de faire avec notre attention certaines choses plutôt que d'autres, hein, c'est ce que ce contrôle de l'attention, cette stabilité de l'attention apporte. À partir du moment où on est lucide sur les états d'esprit qu'on est en train de vivre, on peut aussi commencer à se demander, bon, et si j'en vivais plus souvent certains et peut-être du coup moins souvent d'autres de ces états d'esprit. Et la liste des états d'esprit qu'on pratique méditativement, c'est une liste ouverte, hein, c'est ceux que moi j'ai l'habitude de pratiquer, que je vous propose régulièrement de pratiquer en méditant. Il y a la bienveillance envers soi-même et autrui. Il y a la joie empathique, c'est-à-dire cette capacité extraordinaire d'être content parce que quelqu'un d'autre est content. Se réjouir du bonheur de quelqu'un, l'opposé de l'envie. Et on peut aussi se réjouir de son propre bonheur. Il y a la compassion pour soi-même et pour autrui. Il y a le contentement, cette capacité à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. On peut le lier à une notion de gratitude, mais dans mon jargon technique, la gratitude, qui est le suivant, le prochain dans la liste, c'est plutôt une gratitude interpersonnelle, c'est-à-dire notre capacité à éprouver de la gratitude pour les personnes autour de nous et à se rappeler ce que nos proches, et pas seulement nos proches, nous apportent et en éprouver de la gratitude. Et j'aime bien ajouter la générosité. Ça ne passe pas forcément par des actes. C'est aussi, on peut cultiver notre capacité à la générosité et à ressentir un élan de générosité. Et ces états-là, à petite dose, ça fait du bien. À moyenne dose, je pense que ça peut... Après avoir parlé de non-soi, c'est paradoxal, mais ça peut changer un peu notre personnalité, ou ça peut changer notre caractère. Ça peut nous rendre plus capables de tendresse et de gentillesse envers nous-mêmes, et ça peut nous ouvrir davantage aux autres et ouvrir notre capacité à être bienveillant envers autrui. Et je pense aussi améliorer l'humeur générale, parce que les pensées, toutes ces pensées-là qui relèvent de la bienveillance de ces voisins de palier, elles sont agréables à avoir et elles rendent heureux quand on les a souvent. Donc ça a un impact durable sur l'humeur aussi. Je suis convaincu, et je pense qu'il commence à l'étudier, parce que la méditation de bienveillance est à la mode, mais depuis moins longtemps que les autres, que si on mettait en place un protocole pour des personnes qui ont des problèmes de dépression avec beaucoup de méditation de bienveillance, on verrait les effets tout aussi intéressants que ce qu'on voit avec la méditation de pleine conscience. À très haute dose, à très 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 haute dose, si on pratique beaucoup ces états positifs, ça peut permettre de trouver dans presque tout être humain qu'on rencontre une occasion de les pratiquer. Et vous pouvez vous imaginer en fait le plaisir que vous avez quand vous tournez votre méditation de bienveillance vers quelqu'un de proche que vous aimez beaucoup. Et imaginez que vous pourriez avoir ce plaisir pour n'importe qui. Et à quel point ce serait satisfaisant moralement pour vous. Le Dalai Lama n'est pas forcément un champion méditatif, en fait on n'en sait rien. Il a cette réputation, mais il a eu moins de temps d'isolation que pas mal d'autres enseignants de méditation, parce qu'il y avait pas mal d'autres responsabilités. Mais toutes les personnes qui le côtoient, par contre, et qu'il rencontre, témoignent de ce que, sur le plan justement de l'expression de cette bienveillance vis-à-vis de n'importe qui, il est très fort. Cette dimension-là de la pratique méditative est vraiment quelque chose qui se sent. Elle a le moindre, il y a des témoignages souvent dans les livres qui parlent des rencontres entre scientifiques et bouddhistes tibétains, des témoignages de personnes qui travaillent dans des hôtels, de nettoyeurs ou de portiers qui ont été marqués, à quel point cette personne qu'ils n'avaient jamais vue, qu'ils ne connaissaient pas, mais qui est une espèce de star, avait été extraordinairement chaleureuse, comme si c'était la personne la plus importante du monde pendant les quelques minutes qu'ils ont passées avec. Donc, il y a cette. Si on affine et si on pratique beaucoup ces compétences-là, ce qui nous empêche d'éprouver la même compassion, la même bienveillance et la même joie pour des personnes moins proches peut s'effacer. Et on peut imaginer les perspectives que ça ouvre, hein, en termes de satisfaction. Elles sont, je pense, très importantes. Voilà.